Nous sommes mercredi 8 novembre 2017 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Antix.
Bah bonsoir.
Bonsoir Sirard, notre chef adoré.
Wouhou! Sirard time!
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Galaxies.
Salam alaikum, alaikum salam, salade de loukoum, bonjour.
Oh mon dieu, c'est extrêmement...
Je déteste.
C'est extrêmement détaillé.
Eh, hey, j'ai 280 caractères maintenant.
Comme tout le monde.
En fait, oui voilà. Il y a des mecs qui ont atteint les 35 695, je crois.
D'accord.
Et on fait planter des timelines, ce qui était...
On rédigeait Twilight.
Ils ont tenté quelque chose.
Proposer une réclamation... est-ce qu'on pourrait pas faire une émission plus de 30 ans là pour une fois et virer Drosgar et Galaxies?
Cette fois plaisir.
Oh, ok, c'est pas gentil.
Parce que vous avez quoi là? Peut-être si vous vous emboîtez, on peut considérer que vous avez 30 ans.
Alors, je suis pas sûr.
C'est déjà arrivé.
Voilà.
Quoi?
Ils se sont déjà emboîtés.
Ouais, mais c'est quand je dormais chez toi, tu te souviens pas?
Ah bah non, je me souviens pas.
Ah bah dommage.
C'était
peut-être un
truc qu'il avait mis dans ton verre.
Ok.
Bref. Bon.
Bon.
Cette émission sera intégralement consacrée à Super Mario Odyssey, enfin,
wouhou,
j'aurais dire wouhou. Et mais nous allons tout de suite commencer par le tour de table de l'actu, et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par Antix, qui est toujours la première victime.
C'est parce que je suis le premier sur la liste, même.
Exactement, tu es alphabétiquement le premier, donc moi par réflexe, tu vois, je suis un mec con, donc c'est toi le premier.
Donc moi, je voulais parler un petit peu du Xenoblade Direct qu'il y avait eu hier.
Merci Sira.
Voilà.
Bah on perd un peu les traditions. Hein.
On fait ce qu'on peut. Donc je voulais parler du Xenoblade Direct qu'il y a eu hier, donc qui était la présentation un peu finale du jeu avant sa sortie le 1er décembre. Et j'avais déjà dit à de nombreuses reprises que j'avais des doutes sur le jeu, ce qu'il voulait faire et tout. Et j'avoue que là, pour le coup, on a une grosse présentation au niveau du gameplay. Je suis beaucoup plus convaincu de ce que j'avais pu être jusqu'à présent par les différentes présentations. Donc du coup, j'ai très hâte d'être le 1er décembre. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est que le direct s'est conclu sur l'annonce d'un Season Pass qui ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà eu sur Zelda ou Mario et Lapin Crétin. Et ça me fait quand même dire que tous les gros jeux de la Switch jusqu'à présent, à l'exception de Mario Odyssey, enfin en tout cas tous les gros jeux Nintendo, avaient eu un Season Pass ou en tout cas des DLC alors gratuits dans le cas de Splatoon 2 et ARMS. Et je trouve qu'on a quand même une grosse tendance de ce côté-là, côté Nintendo, c'est-à-dire avoir une politique de DLC qui se construit notamment sur le temps, puisque la majorité de ces DLC ont des choses qui sont annoncées pour parfois plus de 6 mois après la sortie du jeu. Et donc, il y a une volonté de faire un suivi des jeux. Je veux savoir aussi ce que vous en pensez de ce côté-là, parce que moi, je trouve ça plutôt intéressant, même si pour l'instant, on n'a pas encore vu ce que donnaient les gros DLC concrets, comme ce qui a été annoncé pour Zelda, par exemple.
Je vais répondre toutes à ta question. Moi personnellement, je n'achète pas de Season Pass par principe, et peut-être que je me laisserai tenter effectivement s'il y a du contenu intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant sur Zelda par exemple, ça m'a pas plus tenté que ça, et je pense que je le prendrai pas. Xenoblade, j'aurais déjà probablement du mal à le finir, donc a priori non. Fire Emblem Warriors, je vois pas bien l'intérêt. J'avais pris un ou deux DLC de Hyrule Warriors parce qu'il y avait des petites choses intéressantes dedans, mais voilà, moi honnêtement je suis pas vendu sur ce principe là tant que c'est pas obligatoire et qu'effectivement ça ne fait que rajouter du contenu à un contenu déjà conséquent existant, ça me va bien. Mais tant que c'est pas castrer le jeu d'origine pour rajouter du contenu après, ça me va. Mais dans l'absolu, un peu rien à foutre. Je préfère des jeux comme Splatoon 2 où effectivement on te rajoute du contenu régulièrement sans que t'aies besoin de payer.
Mais au final, est-ce que c'est pas toujours castrer le jeu d'origine? Parce que à partir du moment où les développeurs prévoient de faire du contenu en plus après, autant sortir le jeu plus tard avec le contenu. Ou alors, un jour, il faudrait qu'un éditeur qui vienne, qui pose ses coups sur la table et qui dise « Bah voilà, notre jeu c'est 90€, vous avez tout. » Plutôt que nous dire « Bah vous avez le jeu, c'est 60€, et après vous avez le season pass. »
Mais basiquement, c'est ce que te dit un Call of Duty, tu vois, ils te disent, de toute façon, le jeu, il coûte 70 boules, le Season Pass, il coûte 20, ça veut dire que le jeu complet coûte 90, voilà.
Ouais, mais t'as pas le même discours, tu vois,
honnêtement, ça, je te l'accorde, c'est pas dit honnêtement et clairement aux joueurs, voilà, mais bon, de toute façon, au niveau de ton portefeuille, c'est comme ça que tu le ressens. Après, le principe même du Season Pass, c'est-à-dire d'aller payer pour des trucs qui sont pas encore sortis, et qui seront pas encore disponibles, ça me gêne. Maintenant, si c'est fait comme, pour être clair, si c'est fait comme Mario Kart 8 Deluxe, c'est-à-dire qu'effectivement, Mario Kart 8, où t'avais exactement la même chose que d'habitude, t'avais tes 8 coupes, 4 rétros, 4 nouvelles, donc t'avais exactement le même contenu que d'habitude, et 6 mois, 1 an plus tard, pouf, on te rajoute 4 coupes, ça me va très bien. Je suis pas du tout contre ce principe-là. Ce qui me gêne, c'est le fait d'effectivement de l'annoncer à l'avance. C'est-à-dire que si Xenoblade 2 avait dit au bout de 6 mois après la sortie, il y a un DLC maintenant avec un nouveau continent, tu vois, c'est cool. Si t'aimais bien le jeu, tu peux peut-être avoir envie de replonger dedans une fois que tu l'as fini, en repayant effectivement un tout petit complément et pouf. Mais le principe de l'extension ou de l'add-on ne me dérange pas du tout dans le principe. Ce qui me gêne plus, c'est qu'effectivement, on l'annonce dès le départ que...
Ouais, mais si tu prends l'exemple de Zelda, c'était annoncé avant, sauf que si tu voulais le jeu en entier, tu l'aurais genre maintenant. Je pense que tout le monde est content de l'avoir eu en mars. Et en plus, c'est du coup, t'es pas obligé, si tu penses que t'as fait le tour du jeu et que t'as pas envie d'avancer un peu plus, tu peux tout à fait t'en passer. Moi, je l'ai pas payé encore, donc je sais pas si j'y retournerai. Et comme ça, c'est pas non plus, c'est ni 15€ qu'on t'oblige de payer, ni plusieurs mois de développement supplémentaire qu'on t'oblige à attendre. Donc, c'est pas plus mal.
Je pense que ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que finalement, c'est pas des contenus qui ont été castrés. Je pense que c'est des contenus qui n'existeraient pas si ce season de passe n'avait pas été prévu. Et le Zelda, on sait pas encore ce que ça va donner, mais globalement, c'est pas un truc que j'ai l'impression qui manque au jeu de base.
Certains trucs, si. Enfin, il y a des mises à jour et tout qui ont été faites après, qui aurait dû être dans le jeu de base, comme le masque Korogu, des petites choses comme ça, qui méritent pas d'être dans un DLC, je trouve.
Après, ça reste, enfin, sur le principe, je suis d'accord, ça reste du détail, mais effectivement, il y a peut-être 2-3 trucs qui auraient pu être dans le jeu de base. Le masque Korogu, le fait que tu aies sur ta carte le chemin que t'as parcouru, c'est un truc à la con, mais effectivement, c'est le genre de truc, ça aurait dû être dans le jeu de base, je pense. Alors après, la question, c'est de savoir, dans ce genre de cas-là, est-ce que rétroactivement, ce serait pas intéressant de faire profiter à tous les joueurs, de certains add-ons, pas tous. Est-ce que ça aurait pas mérité d'être plutôt dans une mise à jour plutôt que dans un DLC payant? Mais c'est un autre débat.
Un truc gratuit comme ce qu'on a eu pour le pack de langue qui arrivait un petit peu après, ou ce qui va se faire sur Hyrule Warriors d'ici, je crois, dans Fire Emblem Warriors, où on va rajouter des missions en plus, je crois, la semaine prochaine gratuitement. C'est des choses qui auraient effectivement pu être faites au niveau du jeu, mais pas moi. Pour l'instant, ce que j'ai eu des DLC Zelda, c'est pas des trucs qui me manquent, quoi. Le mode difficile ou les épreuves de l'épée, je m'en contrefiche un peu. Je suis plus intéressé par le scénario ajouté et j'attends de voir en tout cas ce que ça va donner. Il est toujours prévu pour décembre à l'heure actuelle, mais on n'a pas plus de nouvelles pour le moment.
Bon, de toute façon, on verra bien. Je laisse la main à Monsieur Galaxies pour sa petite actualité et nous accueillons Zergy qui vient de nous rejoindre.
Bonjour Zergy.
Salut.
Oh, on marche du premier coup en plus.
Ah, la folie.
Incroyable.
Ça craque même pas.
C'est pas gentil de vous moquer.
T'as changé ton micro ?
Galaxies.
Alors, Numérama, qu'est-ce que c'est ?
Non, de la merde.
C'est, alors, plus ou moins.
C'est bon.
Ils ont fait un article où, attendez, on apprend quand même incroyable que Nintendo ne se sent pas encore prêt à sortir un smartphone. Je sais pas si vous vous rendez compte du scoop qui tienne. Mediapart n'a qu'à bien se tenir. C'est au détour d'une question donc sur le Razer Phone, donc le nouveau téléphone de Razer avec écran 4K, 60 FPS, tout ça, machin, mes couilles Mickey.
Super pratique pour aller sur Facebook et sur Twitter.
Effectivement, ultra cher en plus.
C'est à l'époque de MySpace, ça aurait pu se justifier, tu sais, parce qu'il y avait le fameux si mon PC peut faire tourner cette page MySpace, il peut sûrement faire tourner Crysis 4.
C'est assez vrai, c'est toujours vrai d'ailleurs.
Mais là, voilà, effectivement,
mais
c'est un peu bizarre.
C'est un écran 120 FPS quand même.
Attends, tu peux aller voir Facebook
plutôt pas mal.
En 120 FPS.
C'est
en 4K.
Attends, moi je trouve ça plutôt incroyable. Et donc, du coup, il y a Tatsumi, donc Kimishima, président de Nintendo, qui a dit que Nintendo ne s'en est pas spécialement prêt à devenir constructeur de hardware, ce qui se comprend. Du coup,
pas prêt à être constructeur de hardware.
Attends, Nintendo. C'est un article ou pas?
Oui, c'est. Je cite le président de Nintendo. Putain, non mais
de hardware. Est-ce que tu cites pas mauvaise traduction de Numérama
revenu
de l'anglais de la station?
Non mais c'est Numérama, mais c'est très drôle parce que genre ils ont fait la je sais pas si vous connaissez la Wii U, la Wii, la Switch.
La Wii U, non, personne sait ce que c'est. Pour le coup.
Non mais ce genre de truc quoi, c'est bref, c'est mal traduit. Et donc du coup, j'ai réussi à m'infiltrer dans les serveurs de Numérama et à récupérer les prochains articles. Donc on a Nutella n'a pas fini sa console de salon et le prochain Apple n'a pas encore mis à vente sa collection 2007 de piscine de salon. Voilà. Donc voilà, donc petit leak, info exclusive FNTV.
Par chez moi, nous avons avec mes collègues un merveilleux jeu qui s'appelle Logography ou pas. Et de temps en temps, on fait une. Alors le principe, c'est d'aller donner un titre d'article et de savoir si c'est Logography, donc un faux article, parodique, ou un vrai article. Il y a des fois, c'est très difficile.
Oh, c'est très sympa, ça.
C'est très sympa comme jeu. Et on a inventé une petite variante qui s'appelle Logography, Numérama ou pas. C'est beaucoup plus difficile. Mais alors, on a vraiment monté la difficulté d'un cran, parce que des fois, entre Numérama et du bullshit, on a vraiment du mal à savoir. Bref.
Je voudrais qu'on fasse ça en quiz de dernier épisode de saison.
Mais, moi, je suis pour de faire une vraie... Gameblog ou pas, moi, je suis pour de faire ça en quiz de dernière émission. Mais alors, par contre, vous trichez pas. C'est-à-dire que je prends des articles de Gamekult, je prends des articles de Gameblog, je prends des articles de jeuxvideo.com, je prends des trucs comme ça, et vous essayez de deviner d'où ça vient. Je vous
garantis qu'on coupe Internet pour pas tricher.
Non, ce sera
pas le droit pour les articles de Gamekult. Hein.
Ouais, exactement. Putain. Chips Antiques, t'as pas le droit de parler jusqu'à ce qu'on dise ton nom.
Antoine.
Et boum. Oh non.
Et oui.
Boum.
Ah, il a bien mouché.
Quel salaud.
Bref, Monsieur Drosgar qui voulait nous reparler de le petit campement dans la prairie. Est-ce que, alors moi j'ai quand même une question.
Poche.
Est-ce qu'il y a Jason Voorhees qui tue tout le monde avec une hache dans Animal Crossing Pocket Camp, parce que ça s'y prête bien.
Dans Animal Crossing numéro 13. Non, c'est vendredi 13 ou pas avec Jason?
Je me souviens plus. C'est le truc où il y a un camp et où il... Je crois que c'est vendredi 13.
Ouais, genre pas tous les films d'horreur.
The Shining.
Ah.
Bah, de toute façon, c'est souviens-toi de l'été dernier, vendredi 13. Enfin bref, on s'en bat les couilles.
Est-ce que vous connaissez Animal Crossing?
Non, ça suffit.
Cette petite licence méconnue.
Arrête, stop.
Alors, je vous ai parlé il y a 2 semaines de la sortie d'Animal Crossing, enfin de l'annonce déjà d'Animal Crossing Pocket Camp, qui devait sortir fin novembre. Sauf que, comme souvent avec les applications Nintendo, il y a eu un petit test en avance dans la zone australienne. Donc, on pouvait récupérer soit l'APK, soit créer un compte Google ou un compte Apple pour pouvoir télécharger légalement l'application. Et j'ai pu essayer pendant ces 2 semaines ce jeu. Autant vous dire que mes espoirs et ma joie que vous pouviez entendre dans le podcast ont été vite déçus. Parce qu'en fait, on se retrouve avec une version édulcorée d'Animal Crossing, mais pas dans le bon sens du terme. C'est pas comme un Fire Emblem qui a pu plaire à certains fans, où au final, bah, c'est une petite bataille en boucle, il n'y a pas forcément de scénario derrière, mais c'est de la stratégie. Alors après, peut-être que l'aspect stratégique sur une petite carte était assez limité, mais on retrouvait l'essence du jeu. Là, au final, on retrouve la mauvaise partie d'Animal Crossing, c'est-à-dire la répétitivité. On se retrouve vraiment avec un titre où on se retrouve tout le temps à faire la même chose,
c'est-à-dire... C'est pas la seule partie d'Animal Crossing.
Si, mais il y a quand même. Arrêtez, vous me faites mal là. Maman,
laissez-le se réconforter. Il joue à son truc là.
Mais t'es
quoi, laissez-le toi, déballer son truc.
T'as juste une Game Boy Advance, t'as pas d'autre console.
C'est Sims. Et oh,
ouais, et t'es pas né pour la Game Boy Advance.
Oui, si. Non, mais... oui, en plus, c'est vrai qu'il était pas né. Moi j'étais né.
Quoi? Bah si, c'est en 2002 la Game Boy Advance, non?
Ouais, mais t'es 2004. Et donc, Animal Crossing Pocket Camp, on se retrouve.
Mais je suis né, j'étais né en 2001.
Galaxies, ça suffit, sinon fais...
Ouais, d'abord, moi, j'étais né
Mais arrêtez, oh.
Et bah même que nous, on sera morts après vous, normalement.
Mais quand vous êtes né, vous, il y avait encore l'URSS.
Oh, putain, c'est oui.
Vrai. C'est vrai, nous sommes nés avant la chute du mur.
Et voilà.
Enfant X.
Ah,
alors,
si.
Je vous ferai... Moi, j'ai dit une fois à un de mes jeunes collaborateurs, petit con, stagiaire de mes deux... je lui ai dit, écoute, je suis né avant Internet, alors ferme ta gueule. Et c'est vrai que c'est bien passé.
C'est pas une gloire.
Hein. Si, carrément.
Donc, pour revenir sur notre sujet de base, en fait, on se retrouve tout le temps à devoir chercher des ressources pour répondre aux quêtes en fait, des 10 différents habitants. Notre stock de ressources est assez limité. Donc, au début, on se retrouve avec 100 objets maximum, et puis là, au stade où j'en suis, j'en ai 135. Donc, les ressources, ça va être poissons, insectes, fruits et coquillages. Et
pas voilà. Très vegan,
après, hein. C'est tout.
Non, c'est pas très vegan, mais c'est Animal Crossing, hein, on les mange pas. Ah si, en plus, il y a des moments où on les mange et les barbecues, c'est formidable. Et en fait, on doit répondre aux requêtes des habitants, donc c'est-à-dire leur donner deux poissons et un fruit, etc. Différentes requêtes, pour ensuite récupérer des matériaux pour construire des meubles. Au début, c'était assez simple, parce qu'en fait, on se retrouvait avec des meubles que l'on pouvait construire avec peu de matériaux, sur un temps assez limité, c'est-à-dire 3 minutes, avec peu d'argent en plus. Sauf qu'au stade où j'en suis, on se retrouve avec des meubles où il faut 12 heures, plus 70 matériaux, plus 2000 clochettes, etc. Et en fait, on se retrouve dans un jeu
avec
mobile
ça,
classique.
Avec ça, tu construis un leaking size avec un matelas d'eau et un
non,
vibreur
tu construis
intégré
une plante.
Ou... Ah oui, d'accord.
Super. Non mais voilà, enfin, on avance et il n'y a pas forcément de logique.
Alors, et en fait, est-ce qu'on peut implanter Ikea dans Animal Crossing pour simplifier la vie des habitants?
Oui, c'est Animal Crossing qui est sorti, alors je sais plus le nom exact,
Happy
celui sur
3DS. Happy Home Designer.
Happy Home Designer, merci. Qui était, enfin d'ailleurs, j'ai pas pu y jouer parce que je voulais pas dépenser de l'argent là-dedans, mais en fait, il faudrait mettre tout le concept d'Happy Home Designer dans le prochain jeu Animal Crossing sur Switch. Parce qu'en fait, le concept de base est pas con, c'est juste qu'il manquait tout le reste du jeu, et au final c'était trop fade, mais le concept de base était vraiment bien. Et donc,
c'est quand même la meilleure partie de ce genre de jeu. Hein,
j'ai toujours du mal. Personnellement, alors, si c'est ça la meilleure partie de ce genre de jeu, c'est vrai que j'ai un. Enfin bref.
Non, mais t'as pas les Sims, c'est pareil.
Genre les Sims.
Non, mais les Sims ne me posent pas fondamentalement de problème. Mais
je préférais largement.
Drosgar, je t'en prie, termine.
Voilà, donc pour conclure, au final, on se retrouve avec un jeu mobile qui a les mêmes problèmes que tous les jeux mobiles. C'est-à-dire qu'on a la carotte au début, et au final, on nous pousse toujours à vouloir dépenser, sauf qu'en fait, ça ne pousse pas de la bonne manière. C'est pas comme des jeux mobiles où on va pas dépenser tout le temps. Là, au final, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, c'était les tickets. Donc, les tickets feuilles. Et ces tickets feuilles, ils servent pour tout. Ils servent si on a pas assez de ressources pour construire quelque chose. Ils servent pour répondre à la requête d'un habitant. Ils servent si on a pas assez d'argent pour construire quelque chose. Ils servent pour tout, pour accélérer la construction. Sauf qu'au final, bah, on n'en aurait jamais assez si on se met à en acheter, c'est foutu. Parce que La demande est bien trop forte et on se retrouve avec un jeu mobile qui est vraiment qui déconne totalement, surtout si c'est pour les gamins. Enfin, on tourne en rond, donc ça nous pousse pas à rester, et en plus le peu d'achats qu'on pourrait faire est pas intéressant et pas viable non plus.
Quand est-ce qu'on parle de Mario?
C'est quoi Mario?
Justement, Cyrard, tu avais des choses à nous dire puisque tu avais des erratums à faire par rapport, je suppose, au podcast de la semaine dernière qui est
non,
que hier,
pas tant que ça. À part que tu as dit que j'étais celui qui considérait que Mario 3D World et 3D Land n'étaient pas des Mario 3D, alors que si. Mais c'était la théorie d'Oscar.
Bah, la théorie d'Oscar, de dire qu'un Mario 2D, c'est un Mario où il y a un drapeau à la fin.
Absolument. Voilà. Dont cela. Cependant, alors j'ai un erratum d'un truc que tu as dit il y a très longtemps. En fait, j'ai des erratums de quasiment.
Foiré de tous les podcasts, il a un erratum.
En 1292, ouais, ça va dit. Prendre 3 heures.
T'as une putain de chance, c'est que je m'en souviens pas, à part sur un, parce que tu as touché à une partie essentielle qui est la bonne santé de mon cul. Et donc, tu disais que que mon cul avait pas le porte-gobelet qui sortait et qui rentrait, alors que si, mon cul fonctionne très bien et ça rentre et ça sort sans problème.
On peut avoir une photo?
Pix, oh, it didn't happen. Je vais
pas
terminer
de
très très
rapidement. Dans le grenier.
On ne veut pas savoir.
Faut que je trouve un jouet aussi à mettre dedans, mais c'est bon.
Je vais terminer très rapidement. Ça y est, le Miiverse est mort, c'est officiel. Depuis quelques heures, en fait, ça fait pas si longtemps que ça.
Oh non.
Alors, la bonne nouvelle quand même dans le lot. Alors, Miiverse, bon, on pleurera pas forcément sa mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les jeux Wii U qui utilisaient le Miiverse, en fait, ça ne se voit pas trop parce qu'en fait, ça fait comme si le Miiverse était désactivé dans le jeu, tout bêtement. Donc la plupart des jeux continuent à fonctionner normalement, même sans le Miiverse. Alors, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que les mecs ont fait ça à peu près proprement. Et ils ont publié un dernier message qui est en fait une espèce de doodle qui dit « Merci d'avoir utilisé le Miiverse, c'était super, tout ça, tout ça ». Qui en fait est une image qui est constituée de milliers de dessins qui ont été faits sur le Miiverse au cours des années.
Dont des bits.
Dont des bits, effectivement, puisque ça sert essentiellement à ça. Mais vous pouvez vous amuser en fait à retrouver cette image-là en très haute qualité, à zoomer dessus, et vous allez voir qu'il y a plein de dessins de plein de gens. C'est quand même assez rigolo. Voilà, le Miiverse, c'est un petit peu une page qui se tourne, c'est un petit peu un ami qui s'en va. C'est un petit peu une... Voilà, on va arrêter là.
Mais il s'est réincarné. Parce que le jour de sa mort naît là, X... Xenobix. Donc, qui aura à peu près, sans doute, le même succès.
Voilà, c'est un peu de choses. Voilà, mais c'est bien parce que une fois que la Xenobix sera terminée, elle pourra effectivement se réincarner dans Kinect. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment pas gentil.
Et quoi?
C'est pas bien. Avant de parler de Super Mario Odyssey, on va faire une petite pause musicale. Nous allons nous écouter un petit morceau de l'OST de Super Mario Odyssey pour faire un truc un peu original.
La musique du boss final.
Non, parce que elle est très 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 bien, mais je voudrais faire, faire une Super Mario Odyssey un peu en deux parties, c'est-à-dire faire un sans spoil, puis faire un avec spoil pour les gens qui n'auraient pas encore fini le jeu. C'est pas d'une énorme importance parce que le scénario est complètement, c'est avec des ramifications terribles. Bah, Mass Effect
à
côté, c'est vraiment
pitch, en fait.
Quoi ouais,
et il bat Bowser. Voilà, je suis désolé.
Et en fait, le chapeau retrouve sa sœur.
Oui. Et tout va bien.
Et se marie avec elle.
Ah non, mais moi je l'ai pas battu, hein. Moi j'ai arrêté le jeu là, du coup j'ai perdu, tant pis.
Mario
est mort. Je crois que j'ai eu la mauvaise foi.
Un Mario avec une permadeath, moi ça me ferait bien l'arrêter.
Après c'est Luigi qui le remplace.
Voilà, puis après c'est Toad, puis après c'est
Luigi.
Et après tu finis le jeu avec Waluigi, et c'est lui qui sauve Peach et qui pêche la princesse.
Ouais, ouais, sauf que Luigi, c'est Mussolini, alors c'est une dictature dans le Royaume Champignon.
Voilà, et en fait, globalement, Peach, elle est pas d'accord, mais il la viole parce qu'en fait, il en a rien à foutre parce que c'est un méchant.
Nintendo qui pète un câble.
Et du coup, c'est Bowser Jr. qui doit aller sauver la princesse Peach à la fin.
On est, tu sais, au début, alors on a hésité à faire Mario X Lapin Crétin parce que les armes, on n'était pas trop d'accord.
Et l'an d'après, c'est GTA Style, quoi, non-stop.
C'est Gladiator.
Voilà, non, c'est d'après, comme, alors c'est Mario Game of Thrones, mais avec le trône du royaume champignon. T'as Peach qui va faire exécuter tout le monde. Vous m'avez sali.
Même chez Atelier System, ils ne peuvent pas faire des scénarios comme ça, quoi, pour Fire Emblem.
Mais moi, je pense que c'est très dommage. Je pense qu'il faut tenter de demander un truc. Parce que si Peach baisse son frère pour. Attendez. Bon, bref, nous allons faire une première pause musicale avec le thème principal en fait, de New Donk City. Qui est, je pense, une de mes musiques préférées du jeu, avec effectivement le royaume de la cuisine française.
Excellent royaume.
Qui était juste la folie. New Donk City, bah, c'est très bien aussi, mais c'est surtout la musique moi, qui m'a impressionné dans New Donk City. C'est vraiment super rythmé, très très funky, c'est très agréable à écouter. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite. L'hilarité était provoquée par Zergy qui a anticipé le tour.
Il a dit un truc dans le podcast, c'est tour.
Ça suffit. Oh le petit Margoulin. Bref, donc nous allons parler de Super Mario.
Alors je voudrais préciser que la première chose qui a été dit pendant la pause musicale, c'est Antis qui dit qu'est-ce que t'as dit?
Je regarde un strip de Sonic Forces pour voir la catastrophe.
Quelle
heure? Ah, dégueu!
Ah!
C'est sale.
C'est ça, j'ai mes écouteurs.
Donc maintenant, on va parler d'un vrai jeu qui est Super Mario Odyssey. Je vous propose de...
Je vais fermer l'onglet et je vais parler
de
Mario.
Voilà, je vous propose de faire ça en plus ou moins deux parties. C'est-à-dire, bon, j'ai pas envie de spoiler la fin, notamment les derniers royaumes, parce que c'est essentiellement ça, hein, au niveau de l'histoire. Honnêtement, il n'y a pas de quoi faire sauter une braguette. Donc voilà, très clairement. Donc on va commencer plus par la partie mécanique du jeu, comment ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est rigolo, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et ainsi de suite. Et on éventuellement essaiera de tacler, enfin d'aborder plus le côté c'est quoi vos royaumes préférés, qu'est-ce que vous avez préféré dans le jeu, qu'est-ce qui marche et marche bien pour vous, un petit peu après, de sorte à ce que les gens puissent se dire enfin, j'ai pas fini le jeu, je préfère pas écouter ce qu'il y a dans les derniers royaumes éventuellement, je coupe. Voilà.
Ah, best GIF ever sur le Twitter du dojo.
Merci.
Voilà. Mais ce n'est pas noté avec le hashtag dojobar.
Mais le hashtag dojobar n'existe pas. Le hashtag dojobar désigne en fait un bar qui est en Thaïlande et qui est
un
bar
gay. C'est très drôle. À quoi? Ah, j'avais pas vu ça.
Non, il est au Japon, il est en Thaïlande.
Ah, pardon, il est au Japon, excusez-moi.
D'accord.
Mais c'est... Voilà, bref. Donc, Super Mario Odyssey, le principe, c'est d'aller ramasser des lunes, mais c'est un petit peu plus compliqué que de ramasser des étoiles, parce que les lunes, il y en a vachement plus, mais vraiment, genre, ultra vachement plus. Basiquement, dès que tu retournes un caillou, tu chopes une lune. Est-ce que vous, ça vous a plu comme principe, déjà, de base? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous trouvez que ça dilue un peu le plaisir de jeu, ou est-ce qu'au contraire, c'est chouette parce que c'est super gratifiant finalement de choper des lunes, de ne pas ressortir du niveau, de continuer à explorer, de continuer à aller trouver des trucs.
Voilà. Ça dépend. Rare. Honnêtement, il y a des lunes, il n'y en aurait pas, ce serait pareil. En fait, c'est pas très gratifiant effectivement de taper le sol là où ça brille. On voit qu'il y a un petit peu de rajout artificiel. Cependant, il y en a qui sont très sympas. Donc, il y en a plus et c'est bien, mais il y en a qui sont peut-être dispensables.
Bah, moi, ce qui m'a gavé personnellement, c'est la lune, enfin les deux lunes de course. En fait, dans tous les niveaux, t'as la course contre Koopa, version standard, version expert, et à chaque fois, tu gagnes une lune. Et en fait, bah c'est rigolo la première fois, mais au bout d'un moment, enfin voilà quoi. C'est juste une course.
J'ai l'impression que c'est un peu le souci avec certaines lunes, c'est qu'au final, t'as un défi genre niveau facile et niveau difficile. Et moi, je pense là à la corde à sauter dans New Doom City, mais alors faire les 100 sauts sur la corde, je pense que ça va me casser les couilles assez rapidement.
Bah, t'as pas vu le volet alors?
Si, je l'ai vu aussi.
Le volet est ignoble.
C'est une horreur.
Mais en fait, apparemment, il y a moyen de tricher. Il y a des gens qui ont formé de jeu pour tricher.
Mais tricher, c'est mal.
C'est la seule lune où j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. C'est un véritable scandale, monsieur.
Bah, c'est-à-dire que c'est typiquement le genre de truc. Il y a vraiment des lunes. Enfin, il y a peu de lunes très acrobatiques avec un vrai défi de plateforme. Il y en a quelques-unes par monde, mais il n'y en a pas énormément.
Et c'est des défis assez courts, en fait. Ça ne demande pas d'être bon sur une durée, mais sur soit des camps très très courts, comme les défis d'épouvantail où tu mets ta casquette, tu dois monter un petit parcours.
Ou alors, ça c'est cool.
Ça c'est sympa, où t'as des défis un petit peu plus longs, genre ce que t'as avec les fusées ou dans certaines portes avec un chapeau dessus, où là c'est des défis un peu de plateforme, un peu plus de plateforme pure, et où c'est vraiment sympa.
Mais ça ressemble beaucoup au niveau de Super Mario Sunshine, les niveaux sans jet, les fameux niveaux où anti-Mario te pique jet et t'es dans
les seuls bons passages de Mario Sunshine.
Les passages qui finalement ont donné naissance derrière à Mario Galaxy, hein, parce qu'il y a énormément de mécaniques qu'on retrouve derrière. Hein. Mais bref, tu as effectivement, je dirais, de 3-4 types de lunes, mais voilà, les défis très courts, tu as vraiment les trucs d'exploration pure, c'est-à-dire aller observer tel truc et se dire « Tiens, ce machin-là, il est un peu de travers, c'est pas normal si j'allais taper dessus pour voir ce que ça donne. » Et après, tu as effectivement des lunes qui sont plus du défi. Honnêtement, les plus intéressantes, je pense que ça reste quand même les défis de plateforme. Surtout qu'en général, dans chaque niveau de plateforme, en fait, il y a deux lunes à trouver. Il y a celle qui est au bout du parcours, et puis il y en a une qui est planquée, plus difficile à accéder à l'intérieur du parcours, ou plus difficile à débloquer à l'intérieur du parcours, et celle-là est en général vachement bien.
Alors c'est un effet pervers, c'est qu'au bout d'un moment, tu te mets à tourner la caméra, à chaque fois que tu rentres dans un endroit, tu te mets à tourner la caméra dans tous les sens pour être sûr qu'il n'y a rien de caché à l'entrée, et en fait, tu perds un temps fou à chercher des trucs qui n'existent pas, mais... Bon, les lunes qui sont cachées comme ça, en fait, finalement, au bout d'un moment, tu commences à trouver le truc. Tu trouves évident qu'il y a une lune cachée à cet endroit-là et elle y est cachée. Mais au début, c'est super gratifiant, effectivement, de trouver une lune qui n'est pas sur le chemin classique d'un défi.
Puis en plus, oui, il y a, comme tu disais, tu finis par prendre le réflexe d'aller tourner un peu la caméra dans tous les sens pour aller voir ce qu'il y a dans l'envers du décor, voir s'il n'y a pas une ouverture à tel endroit, voir si... C'est plutôt intelligemment fait, je trouve, et effectivement, c'est super gratifiant de te dire... Enfin, t'as l'impression d'avoir baisé le game et hacké la matrice parce que t'as tourné la caméra de 2 degrés vers la gauche alors que c'était pas forcément prévu, et t'as trouvé une ouverture qui t'a permis d'accéder à une lune. Et ça, c'est cool. Maintenant, il y en a aussi qui sont juste impossibles à trouver tout seul. Enfin, il y a des trucs, sans l'indice de Toad, je vois pas comment tu fais, et même avec l'indice de Toad, il y a des fois, j'étais là genre, bon, ok, donc elle est là, cool, je fais quoi maintenant? Surtout que l'indice de Toad, il t'indique où elle est, mais il t'indique pas du tout, enfin où elle est sur un plan horizontal, mais pas du tout la verticalité. Et pour des niveaux où il y a énormément de verticalité, ça devient très très compliqué d'arriver à trouver où elle est exactement.
Mais t'as le pair au truc qui peut te donner du coup un indice supplémentaire. Et tu peux du coup combiner deux indices pour savoir.
Ah, le pair au truc peut te donner un indice sur celle que t'as donné Toad.
Ouais,
en fait, le nom de...
ça arrive. Tu sais, en fait, quand tu vas sur la map, donc tu vas sur la map Y, tu as la liste des étoiles que tu as eues et pas eues. Et du coup, tu as à la fois l'indice et l'emplacement si tu as les deux, tu as eu les deux.
D'accord.
J'avais pas donc tu sais que ça correspond.
Ouais, donc effectivement, si tu as un indice, ça peut peut-être aller. Mais il y a des fois, enfin, moi, il y en a certaines, je me suis dit, mais comment tu veux que je trouve ça tout seul? Autant il y a des trucs, c'était logique, tu sais, t'as 5 piliers, il y en a un qui est un peu cassé, ben, tu fais un saut gros cul dessus, paf, ça révèle une lune, ok, cool. C'est un peu abusé comme truc, mais pourquoi pas. Il y en a d'autres, franchement, sans avoir une soluce derrière pour dire c'est là qu'il faut aller, je vois pas comment je les aurais trouvés. Par en galérant quelques heures. Bref. Est-ce que ça vous rappelle pas un tout petit peu beaucoup Banjo-Kazooie?
Complètement. Ouais,
c'est Banjo-Kazooie. Hein, c'est...
Mais avec des bonnes musiques.
J'étais trop jeune.
C'était très bien Banjo-Kazooie.
Banjo quoi?
C'est vrai que c'est une mécanique qui est assez similaire finalement dans Banjo-Kazooie. C'était beaucoup d'observations, beaucoup de tournages de caméra pour vérifier qu'il n'y avait pas une note de musique. Les notes de musique et les pièces de chaque monde, par exemple, c'est quand même assez... Enfin, la similitude est assez frappante.
Par contre, il n'y a pas un framerate de 12.
Oui, mais après, ça...
Et la partie passante est un peu plus intéressante.
Ah, les enfoirés.
Non, mais c'est vrai qu'on est plus dans le côté collection qu'on a pu avoir dans Banjo-Kazooie. Et enfin, en fait, la majorité des jeux de Rare en plateforme 3D, donc aussi dans Donkey Kong 64, qui est, à mon avis, la pire chose.
Un excellent jeu.
Pourtant, moi, je trouve que niveau collectionniste, c'est vraiment le pire de tout ce que j'ai pu faire.
Je vous rappelle qu'il est dans le Guinness des records pour le jeu dans lequel il y a le plus d'items à collectionner.
À mon avis, Zelda l'a battu. Mais...
Ah, Mario est pas mal aussi maintenant. Hein.
Non, mais attendez, vous avez vu les nouveaux Assassin's Creed ou les jeux Warner Bros. Où ils rajoutent 40 000 petites plantes à récupérer pour...
Bah oui, mais ça s'appelle rajouter du contenu plutôt que aussi Mario, de rajouter
oui.
du jeu.
Mais justement, mais oui, mais c'est que ça. Et c'est, à mon avis, c'est la force de genre de ce Mario Odyssey, c'est que ça paraît pas trop artificiel, même s'il y a des...
Il y a des moments aussi,
lunes
quand même.
Qui sont... Oui, il y a des lunes qui sont faciles, d'après ce que j'ai vu, mais...
Il y en a, c'est péter des caisses, c'est pas un exploit pour tomber sur une lune.
Ah oui, non, effectivement, ok, j'avais pas vu ça.
C'est pour ça qu'il y a des... Enfin, c'est vrai que la facilité de trouver certaines lunes par rapport à d'autres donne l'impression qu'ils ont pas... Ils ont un peu casé là, histoire de dire, bon ben, faut que les mecs avancent, on va leur enfiler des faciles pour pas qu'ils perdent trop de temps. Peut-être le plus proche de ce que je veux dire, c'est la lune que tu peux payer pour 100 pièces dans le magasin. 100 pièces, c'est absolument rien dans le jeu. C'est super facile à avoir.
Dans le premier monde, ça te fait chier, mais alors dans les mondes d'après, tu rigoles, tu es bon. Tu vas pour aller chercher ta lune.
C'est ça, bah, globalement, là, je suis arrivé au monde du volcan, donc je pense un des derniers mondes, globalement, avant le boss final, et je suis arrivé à la boutique, j'avais 3000 pièces, j'ai payé, tu vois. Ah, j'en sais rien du tout, je sais pas où j'en suis. Mais.
Quel volcan?
Ah,
déjà. Non, mais j'ai fini le jeu, donc je vois pas de quoi tu parles là, mais.
Bah le monde de la bouffe quoi.
Ah ok.
C'est un volcan.
Ouais parce que ça me disait rien non plus.
Ah merci.
C'est le monde de la bouffe. Hein. Techniquement tout le monde appelle ça le monde de la bouffe, mais c'est pas grave.
Bah oui, sauf
Antix. Je vois ce que tu veux dire, il y a vraiment des... Je sais pas si c'est une question de niveler, de rendre le jeu plus accessible, parce qu'effectivement pour passer sur le premier run en tout cas, pour passer d'un monde à l'autre, il y a un nombre de lunes requises.
Mais qui est très facile à obtenir avant même d'avoir terminé les 3-4 étapes obligatoires de chaque niveau. Quoi.
Alors honnêtement, je l'ai pensé, et une fois que tu as atteint le dernier monde et le boss de fin, honnêtement, il n'y a pas de question d'accessibilité. Et c'est, le jeu, il peut pas être fait par un tout petit. Quoi. Autant les premiers mondes, ouais, il y a des lunes faciles à avoir, mais le jeu est super dur. Enfin, super dur. Pour quelqu'un qui n'est pas super... qui est pas aguerri et habitué aux plateformeurs 3D, il faut galérer, hein, les petits. Hein.
Oui et non, parce que ma fille qui a donc retourné Super Mario 3D World du haut de ses 5 ans, mais défoncé le jeu, hein. Elle l'a vraiment déboîté dans tous les sens, elle a absolument tout ouvert, le seul truc qu'elle ne fait pas c'est collecter les étoiles spéciales ou les étoiles vertes, enfin, je sais plus comment ça fonctionne dans Super Mario 3D World, donc elle a pas débloqué le monde super extra S super difficile, mais elle a déboîté le reste du jeu, toute seule, sans mon aide. Mario Odyssey, elle a beaucoup plus de mal, mais beaucoup plus de mal. Alors je ne sais pas si c'est l'inertie du personnage, ou si c'est le fait que ce soit de l'exploration, alors que c'est vrai que Mario 3D World, tu vas d'un point A à un point B, et puis voilà, l'objectif c'est d'arriver jusqu'au bout du niveau, et puis pas tellement plus que ça. Mais là, nettement plus de mal dessus.
Il y a un mode assisté d'ailleurs pour aider dans ce genre de cas, enfin je sais pas si elle l'a utilisé, mais j'ai cru comprendre que ça marchait bien pour les enfants en fait.
Moi ce qui marchait plutôt bien c'était je prenais Capi, donc je faisais du mode de joueur. Alors, j'ai fait énormément de mode de joueur parce que ma femme aime bien jouer Capi, en fait. Voilà. Parce que c'est rigolo, de toute façon, de jouer à deux. Ça rend le jeu. Sur certains passages, ça rend le jeu ultra facile. Sur d'autres, ça le rend plus difficile, étonnamment. Parce qu'il y a vraiment des trucs sur lesquels on sent que c'est pas fait pour.
Mais voilà. Faut synchroniser les mouvements.
C'est un peu ça, ouais. Faut synchroniser les mouvements. C'est-à-dire quand tu dois sauter sur Capi pour atteindre un truc plus haut, ou que Capi doit te faire sauter, ou machin. Enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, avec la gamine, je trouve que ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire quand elle galérait, plutôt que de faire à sa place, je prenais la deuxième manette. Écoute, je fais le chapeau, je t'aide à faire ça. Et puis ça lui permettait d'avancer plus vite.
En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que certaines lunes étaient là pour rendre facile le jeu, clairement, il y a un gap à la fin qui rend les choses incompatibles. Quoi. S'il y a quelqu'un qui a besoin des lunes super faciles pour avancer dans Mario Odyssey, cette personne-là, elle va être coincée à la fin, c'est sûr.
Alors, je sais pas si c'est tellement pour faire avancer quelqu'un, mais ça peut simplement être pour que tu aies l'impression de progresser et pas l'impression de stagner. C'est-à-dire que si t'as l'impression de galérer sur chaque monde et de jamais progresser, c'est vite lourd. Là, j'ai l'impression que l'état d'esprit, c'est plus essayer de faire avancer le joueur, parce que l'objectif, c'est qu'il voit tous les niveaux et qu'il arrive finalement à la fin du jeu assez vite pour pouvoir faire un deuxième run. Moi, je crois que pour le premier run, je sais pas combien de temps vous y avez passé, mais j'ai pas dû y passer plus de 4 ou 5 heures. Hein. Ça a été très 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 rapide pour arriver jusqu'au boss de fin.
Moi, c'est toujours en cours parce que j'aime bien prendre mon temps sur les niveaux et bien les explorer. Enfin, New Donk City, j'ai tellement aimé que j'ai juste 50 lunes avant de partir, quoi.
Ouais, bah c'est pareil, moi j'ai quasi récupéré toutes les lunes au fur et à mesure.
Bon, un peu pareil aussi, il y a 4 mondes où j'ai toutes les pièces violettes déjà. Et après, donc maintenant j'ai fini le jeu une première fois et je suis en train de refaire tous les mondes un par un pour essayer d'avoir le 100%, mais je sais pas combien de temps j'ai pas regardé aujourd'hui parce que du coup ça fait plus de 10 jours, mais j'ai pris vraiment mon temps.
Bah moi j'ai fait un peu pareil, sauf que alors il y a effectivement quelques niveaux que j'ai plus exploré que d'autres lors de la première run. Parce que c'est vrai qu'on parle de première run, deuxième run, mais c'est vrai que c'est un jeu dans lequel le endgame et le générique de fin veulent pas vraiment dire grand chose, qu'on a fini entre guillemets l'histoire, on a battu le boss de fin, ok. Mais en réalité, il y a 99% du jeu qui reste à faire quasiment, parce que un des objectifs c'est quand même d'arriver à faire le 100%. Et c'est vrai qu'il y a quelques niveaux sur lesquels je me suis un petit peu plus attardé, en me disant, bon, je vais essayer d'aller choper un peu plus de lune, ou simplement en se baladant, t'en as sur le chemin, donc bah, tu la ramasses, quoi, tu réfléchis pas, tu vois un truc, tu y vas. Un peu façon Zelda, finalement, tu vois un truc bizarre, tu y vas, tu ramasses le machin, tu continues, puis tu te laisses un peu emporter par le jeu sans trop réfléchir. Mais derrière, moi, une fois que j'avais le nombre de lunes requis et que j'avais rien remarqué de particulier, ou que le niveau commençait à me gonfler un peu, bah, je me barrais sur le niveau suivant. C'est aussi une manière de progresser.
Oui, enfin, c'est comme ça que j'ai fait. Il y a des niveaux sur lesquels je suis resté assez peu de temps, comme le niveau du désert ou le niveau du lac, je ne suis pas très fan. Par contre, la forêt ou la ville, qui sont vraiment mes gros coups de cœur, j'en ai vraiment fait beaucoup dans ces deux-là, parce que c'est des niveaux qui m'ont vraiment éclaté, avec des super ambiances et compagnie. Donc c'est plutôt une question de goût, mais on a une progression qui est quand même vraiment libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Contrairement à Mario 64, on n'est pas obligé d'avoir un certain nombre d'étoiles ou de débloquer certaines capacités pour pouvoir progresser dans le niveau. Il y a juste les 3-4 phases obligatoires où tu dois aller buter le boss, je ne sais pas dans quelle partie du niveau, qui te permettent de le découvrir un petit peu, et où tu es un petit peu dirigé, tu découvres le niveau, tu récupères quelques étoiles. Et du coup, arrivé à la fin de cette séquence d'événements un petit peu narratif, débloque d'autres choses dans le niveau. Mais globalement, tu es très libre de ce que tu veux faire. Si tu veux retourner en arrière, il n'y a pas de souci. C'est un jeu qui te laisse vraiment faire un petit peu ton aventure à la carte. Peut-être pas autant que Zelda, mais de façon assez libre.
Mais de toute façon, effectivement, maintenant que tu le dis, tu as un phasage dans les niveaux qui est assez simple. Finalement, tu débarques dans un niveau, on te dit, bah faut aller là, il y a le boss. Le fait d'aller là, ça, c'est un petit peu comme la toute première étoile dans chaque niveau de Super Mario 64, ou la toute première étoile dans chaque niveau de Super Mario Sunshine. Ça t'oblige finalement à prendre un premier chemin pour aller d'un endroit A à un endroit B, donc à explorer en partie du niveau de manière peut-être un peu guidée, mais on te montre un peu les rouages du niveau, comment ça fonctionne. Et là, comme chaque monde est totalement différent, ça te permet aussi d'appréhender les mécaniques, les habitants, la façon dont ça fonctionne, les différents éléments du décor, et ainsi de suite.
Et les personnages avec lesquels tu vas pouvoir te transformer, parce que ça reste un point important du jeu.
Exactement. C'est-à-dire que tu vas découvrir les ennemis avec lesquels tu vas te transformer, parce que très souvent, tu es obligé de te transformer dans un ennemi, enfin, de prendre possession d'un ennemi, d'exorciser un ennemi, pour pouvoir avancer jusqu'à ce premier boss. Et en fait, une fois que ça c'est fait, ça débloque le reste. En gros, tu vas pouvoir aller récupérer des lunes, et il t'en faut un certain nombre pour passer au niveau suivant. Et après, une fois que t'as fait le endgame, tu peux évidemment revenir au jeu pour essayer de collecter tout ce que tu veux.
D'ailleurs, c'est plutôt malin la façon dont c'est fait, puisque les transformations, ils vont te les faire découvrir un petit peu en amont, avec un peu les différentes possibilités, et ça va évoluer au fur et à mesure jusqu'à ce que t'arrives au boss. Et surtout, quand ils te font faire ces phases un peu obligatoires pour avancer, bah, les transformations, tu découvres aussi leurs possibilités. Et en fait, c'est cette possibilité-là qu'il va falloir que tu utilises par la suite pour pouvoir trouver les étoiles. Typiquement, le tank que tu rencontres pour la première fois dans la forêt, normalement, tu es censé l'utiliser pour déblayer des trucs dans les murs. Tu le fais 3-4 fois, et en fait, en cherchant un petit peu, tu te rends compte qu'il y a une étoile qui est cachée derrière ces espèces de murs en terre que tu ne peux casser qu'avec le tank.
Effectivement. D'ailleurs, c'est bien que tu introduises le sujet. Au niveau des transformations, vous avez trouvé que ça faisait beaucoup gadget, ou que finalement, c'était plutôt bien vu? On pouvait quand même avoir peur que ce soit un truc totalement abusé dans lequel faudrait tout le temps se transformer et ce soit n'importe quoi. J'ai plutôt l'impression que c'est à bon escient, mais vous en avez pensé quoi au final?
C'est vraiment
qui fait le malin.
Ah, moi je fais le malin, mais vu que je suis un sale 2000, non, je suis pas un 2000, je suis pas Galaxis. Non, en vrai, j'ai trouvé ça.
Bravo la discrimination en 2017, monsieur. Bravo.
T'es même pas majeur, ça me
dénonce,
tue en
plus. Dénonce ton balance plus 90. Ton porc. Ah, okay.
En vrai, j'ai bien aimé. Après, il y en a beaucoup qui sont gadgets, hein, qui auraient pu être remplacés limite par un item, mais c'est ça en fait, on a voulu remplacer tout le concept d'item, de boule de feu, etc., de transformation classique dans notre Mario, par juste du coup la chapimorphose. Et à des moments c'est un peu gros, comme par exemple, je pense, pour prendre les premiers mondes, les Moai, donc ceux qu'on voyait déjà dans Super Mario Land, là on peut juste les utiliser pour voir des passages invisibles avec leurs lunettes. Et lorsqu'on a ces passages là, on va à une vitesse très lente. Au final...
Spoil!
Mais non, c'est le premier vrai monde qu'on avait. En plus, on a même pu le tester avec Mortal quand on essayait le jeu en juin. Donc on en parle depuis 6 mois.
Non, c'est pas du spoil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le Moai fait effectivement... Enfin, je te laisse finir juste après, hein, mais effectivement, il a les lunettes, il peut voir des plateformes invisibles, mais il est très lent, puis il a pas les lunettes, il peut aller très vite. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que après le premier run, donc après le endgame, t'as 2-3 épreuves avec le Moai où justement on te force enlever les lunettes, tout ça. Et je trouve que le Moai, au départ, je trouvais c'est un peu useless, mais enfin, je voyais pas bien l'intérêt, mais en fait ils ont quand même réussi à l'utiliser de manière un peu intelligente après. Voilà, je te rends la parole.
C'est quand même bof.
Mais c'est ça, je suis d'accord, ils ont réussi à s'en servir, mais au final ça reste très limité, et il y a vraiment des transformations qui sont là pour dire, enfin limite pour mettre le nombre, quoi, pour dire on a 52 transformations, regardez-les, qu'elles sont belles. Après... Pardon, celle qu'on avait beaucoup vue dans les trailers, c'était le T-Rex, et on s'en sert quasiment peu. Au final, il y a vraiment des transformations qui m'ont plus marqué, comme, pour reprendre les premiers mondes encore une fois, le Goomba volant, qui lui était plus intéressant d'un côté que le T-Rex, qui au final est plus un effet d'accroche. Au final, on s'en sert 2-3 fois, et puis une fois qu'on a fini ce qu'on avait à faire avec lui, c'est fini.
Dans les speedruns, c'est vachement intéressant le T-Rex.
Oui, j'ai vu ça.
Il n'y a quasi aucune transformation qu'on utilise très souvent. Hein. C'est super varié. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt et le piment du jeu. C'est que t'as pas une transformation que t'as tout le temps. Et en fait, à chaque monde, ça t'en apporte de nouvelles. Et en fait, c'est un vrai kiff, je trouve, cette chose. Parce qu'à chaque fois, en fait, limite, t'oses pas le faire, même sur le tout dernier passage du jeu, où t'oses pas le faire, et puis au bout d'un moment, tu te dis « Ah !» et t'essayes, et puis en fait, c'est un vrai kiff que ça marche. Ou des fois, t'es bloqué, tu comprends pas le truc, et puis, t'essayes, et puis ça te débloque direct. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est pas quelque chose d'intuitif d'essayer, Et à chaque fois, c'est une bonne nouvelle. Et c'est toujours sur une toute petite partie de jeu, donc c'est pas tout le niveau qu'il faut faire comme ça. Et c'est gonflant, c'est juste pour débloquer un petit passage. Puis après, tu zappes et du coup, c'est plutôt très rafraîchissant pour ça.
Je trouve que de ce côté-là, on est quand même, enfin, on a quand même beaucoup de liberté, mais dans chaque niveau, en fait, finalement, enfin, t'as qu'un set précis de choses que tu peux pouvoir contrôler. Le second niveau aquatique, celui de la plage par exemple, t'as les chip-chips et donc les poissons pour se balader sous l'eau, ce qui d'ailleurs rend les passages en l'eau bien plus agréables. Et l'autre truc, c'est une espèce de poulpe qui est à la surface et qui peut propulser de l'eau. Donc au final, t'as pas mal de variétés. T'as pas tant de choses qui sont vraiment inutiles, même si certaines forcément ont l'air plus anecdotiques que d'autres. Là, je penserais plutôt à tous ces contrôles des piquets, par exemple.
Ouais, on a cité les Moai, mais effectivement, il y a quelques transformations qui sont. Même le T-Rex, au final, ça reste assez anecdotique.
Le T-Rex, c'est cool pour le côté waouh, et au final, tu te rends compte que c'est pas forcément la plus sympa ni la mieux utilisée dans le jeu. T'as des trucs très sympas comme l'espèce de chenille qui peut s'étirer et qui va utiliser pour traverser la lave, enfin le poisson. Je parlais du poulpe qui se propulsait avec l'eau, moi je trouvais ça vraiment génial. C'était un des trucs.
Ou le truc avec ses jambes là.
C'est
oui, le truc dans la forêt.
Qui allonge les jambes.
L'espèce de noix qui allonge les jambes. C'est vrai que c'est super bien vu. Et d'ailleurs, le boss de ce truc là est super bien vu aussi. Ça fait vraiment partie des trucs super originaux.
Je dirais que dans l'ensemble, 80% du temps c'est des bonnes idées, 15% c'est anecdotique et 5% c'est c'était drôle, mais voilà quoi. Et dans l'ensemble, c'est quand même une mécanique qui fonctionne, qui marche bien, qui est vraiment intuitive, parce que comme a dit Cyrard, on a un souci, on tente de contrôler, ça marche, et ça nous offre de nouvelles possibilités, et surtout c'est pas un truc qui est compliqué à comprendre, puisque généralement, les touches associées à Mario. Alors Mario se contrôle qu'avec trois touches quand même, hein. Une touche pour le chapeau, une touche pour le saut et une touche pour s'accroupir. Et souvent les ennemis, en fait, ils vont avoir qu'une seule, une ou deux touches. Et souvent, ça va être lié à ce que Mario fait, c'est-à-dire qu'un ennemi qui peut sauter, sa touche de saut sera forcément B. Et à Y, tu auras un truc genre le turbo ou une capacité d'attaque comme pour les frères Marteau par exemple.
Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez simple. Alors déjà, c'est indiqué à l'écran, mais ensuite, effectivement, on aurait pu craindre que les ennemis soient un peu compliqués à contrôler, mais finalement, on a essayé de simplifier la vie du joueur le plus possible en faisant un truc le plus bateau possible. Est-ce que le chat peut fermer sa mouille ?
Tu parles pas comme ça au chat.
Non mais le chat,
très mignon, voilà. Un chat.
Alors d'ailleurs, j'ai une annonce à faire, donc le cochon d'Inde est mort.
Paix à son âme.
Et voilà.
La plus grande star de ce podcast, notre guest favori.
Notre guest favori qui hurlait régulièrement, voilà, donc vous serez extrêmement désolé d'apprendre qu'il ne hurlera plus jamais, c'est extrêmement triste.
Ça va nous manquer, ça.
Enfin, du coup, maintenant, il y aura le chat.
Moi, je ferai peut-être le chat, ou alors retrouver le cochon d'Inde artificiel, je ne sais pas, mais peut-être faire trouver quelque chose.
Et qu'est-ce que t'as fait ?
Alors, je n'ai rien fait, il est mort tout seul, il est vraiment... Il n'était pas tout jeune non plus, voilà. Bref.
Il a fait oui pendant un podcast
on a essayé de contrôler les choses en. Je sais plus où j'en étais. Bref, en termes de chapimorphose, est-ce que vous avez des transformations préférées ? On en a évoqué quelques-unes. Je pense que les plus intéressantes, on les a évoquées.
Le pivert.
Le drapeau. Et...
l'électricité, c'est vachement sympa. Du coup, ça permet des téléportations.
Oui, je trouve ça rigolo aussi de pouvoir. Ça me fait marrer le concept de je mets des téléportes quand les niveaux sont trop grands, sauf que faut quand même que ce soit une chapimorphose, sinon c'est pas drôle.
J'ai bien aimé le bilboum.
C'est quoi ça ?
Le bilbourin. Enfin,
en géant ou en petit ?
J'ai pas encore fait le géant, mais le petit dans le niveau du désert, c'était vraiment sympa ce que tu pouvais faire avec. Enfin, tu comptais passer au-dessus, mais il y avait beaucoup de choses à faire en fait. Beaucoup de parcours à obstacles, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait pour. Pour son utilisation, je le trouvais vraiment sympa pour une des premières en plus de transformation.
D'accord. C'est rare, donc, une transformation préférée ?
Non, c'est ceux qu'on a déjà évoqués. Il y a le tank qui est sympa, et en même temps, ça m'amuse de voir qu'ils n'assument pas du tout de mettre des armes dans les mains de Mario, à part effectivement dans le cross avec les lapins. Par contre, jouer à tank et tout détruire...
Il n'y a pas de problème.
Ouais, tout tranquille.
Moi, j'étais très déçu de ne pas pouvoir prendre possession d'un taxi.
Si tu peux.
Alors,
Tu peux.
Je n'ai pas vu les taxis sur lesquels on pouvait prendre la main.
J'ai cherché aussi, mais je n'ai pas trouvé.
Il ne manque qu'une lune alors.
Il manque deux lunes même.
Ah, mais de toute façon, je n'ai pas encore. Là, pour l'instant, j'ai fait 100% sur le monde des chapeaux, le désert, les lacs. Et je sais plus quel autre, mais je l'ai fait au fur et à mesure, le 100%, et donc effectivement, j'ai pas tout trouvé dans New Donk City, qui est... Alors, je sais pas combien il y a de lune dans New Donk City, mais dans le...
Une 66 dans... avant la fin du jeu, alors je sais pas si ça augmente après.
Ben, ça augmente après.
Mais quand tu peux voir le nombre de lunes en allant sur la carte, en appuyant
oui,
sur Y.
Oui, tout à fait. Mais j'avais vu, par exemple, le monde du désert, il y en a 89.
Sérieux ?
À la fin, oui.
Et il est monstrueux. Il y en a... C'est mort, ça.
Il y en a une soixantaine dans la version normale, quoi, on va dire.
Donc voilà, et il y en a qui sont vraiment... Alors, il y en a qui sont très simples à trouver. Le problème, c'est que le monde est très grand, donc explorer le moindre mètre carré pour aller trouver des trucs bizarres, il y en a vraiment où, si on ne donne pas au moins une indication, en te disant, voilà, c'est plus ou moins par là qu'il faut chercher, c'est compliqué à trouver. Bref. Dernière petite chose dont je voudrais qu'on parle avant de parler de vos niveaux préférés, et d'éventuellement conclure cette émission, c'est tout ce qui concerne le motion control. Alors ça...
c'est de la merde.
Ça a un peu fait débat, voilà, parce que c'est pas obligatoire, mais néanmoins, ça simplifie bien la vie. Donc ouais, je voudrais avoir votre avis dessus, c'est-à-dire, est-ce que vous avez apprécié, pas apprécié, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que finalement vous l'utilisez, vous l'utilisez pas, sachant que si on s'en passe, on est quand même un peu dans le caca dans certaines situations.
Bah, en fait, moi, mon vrai problème avec le motion control, c'est que c'est un truc qui a pas du tout été pensé pour une utilisation en mode portable.
Ça c'est sûr, oui.
Le gyroscope de Zelda, il y avait des moments où quand fallait retourner la manette pour faire un puzzle, c'était pas possible en mode portable. Bah là, gigoter pour pouvoir grimper plus vite ou pour faire une attaque de chip-chip, alors que t'as la console en main, c'est quand même une sacrée idée de merde.
Pour grimper plus vite, tu peux marteler le bouton Y.
Ouais, non, en fait, il y a pas mal de trucs que tu peux compenser en appuyant sur les boutons, mais c'est jamais indiqué. Et alors, moi j'ai fait que le jeu à la manette pro, donc en soi ça me manque pas vraiment, et quand je dois juste gigoter la manette pro devant la télé, ça me va. Mais c'est vrai qu'en mode portable, je trouve que c'est pas du tout pensé pour, et même si t'es pas obligatoire, t'es quand même encouragé à le faire, et je trouve ça dommage que un jeu first party Nintendo... pour la Switch, je pense pas à ce détail qui est quand même super important, quoi. Le mode portable.
Moi, ça me rappelait un petit peu ARMS, qui est à peu près impossible à jouer en mode portable, parce que t'es obligé de jouer à la manette et que ARMS.
Ouais, mais alors là, c'est complètement assumé, par contre.
Ah, c'est complètement assumé, mais je trouve ça super dommage, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des jeux qui sont pas du tout faits pour être en mode portable. Il y en aura d'autres qui seront pas du tout faits pour être en mode télé. Et tu vois, c'est là que tu commences un peu à atteindre, je vais pas dire les limites du concept, mais quasiment. Si rare justement sur la partie motion control, il paraît qu'il t'est arrivé un truc marrant.
Alors juste, je voudrais ajouter que effectivement, d'une part, après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve en plus il est mal foutu parce que typiquement l'attaque pour lancer Capi en tournoyant. Moi, j'ai l'habitude de jouer avec les Joy-Con verticaux. Je joue avec les Joy-Con séparés et je les joue verticaux. Et en fait, le geste, il marche que quand les Joy-Con sont horizontaux. Et j'arrivais pas à le faire au début et il m'a fallu super longtemps pour comprendre. Et donc je trouve que c'est pas super super au point la détection des mouvements. Et l'autre truc que je voudrais ajouter, c'est que ils insistent beaucoup sur le fait que c'est mieux de jouer en gyro, mais donc quasi tout est possible sans. Mais jamais il l'indique. Et sur le forum, y a eu pas mal de petites astuces sur comment on remplace telle manip gyro par telle manip en bouton. Et typiquement, l'attaque tournoyante, en fait, il faut donc faire un 720 avec le stick pour tourner sur toi-même, et ensuite tu lances la casquette. Et donc, ça fait la manip. C'est super. Bon, du coup, moi, je le fais comme ça. Mais c'est pas du tout intuitif et jamais il t'en parle en fait. Le jeu t'indique uniquement en motion control. Ça aurait mérité au moins de te donner le choix. Et la dernière petite anecdote que j'ai, et qui pointe un détail qui moi me gêne, c'est que c'est pas désactivable. Et donc parfois ça amène des faux positifs inquiétants. Et donc par exemple, moi j'avais un moment une lune, donc je commence à faire un petit chemin jusqu'à la lune, que c'est d'ailleurs qui me fait un petit peu chier. Donc c'est avec une transformation qui te permet d'être résistant à la chaleur. Et donc la lune, en fait, à un moment, tu es dans un bol très très chaud. Et donc je rentre dedans, la lune elle sort, et donc je suis content. Et qu'est-ce que je fais? Je me gratte les couilles. Et en me grattant les couilles, je fais un geste. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que ça lance la casquette. Et lançant la casquette, c'est que ça me dégage de la transformation. Et donc, je me crame le cul, je meurs et j'ai pas ma lune. Et donc, t'as pas le droit de te gratter les couilles, sinon tu perds.
De couilles.
Et j'étais obligé de recommencer tout le niveau juste parce que je me suis gratté les couilles.
Et... Journalisme le total, j'ai joué à Mario Odyssey en me grattant les couilles. Le motion control, ça marche vraiment pas.
J'imagine sa tête, tu sais, il se gratte les couilles, il fait ah non! Ah non!
Et bah, c'est que Izumi a dit qu'il voulait pas que les gens se grattent les couilles en jouant à Mario, je pense que c'est pour ça. Hein.
C'est pour ça. Ils se grattent les couilles dans Super Mario Odyssey, ça tourne
mais
mal.
Mais c'est ça, c'était quel Joy-Con? C'est celui avec le capteur infrarouge? Ça a peut-être détecté ton paquet. Et ça, dans ce cas, ça a lancé la casquette.
Ou alors ça a rendu stérile avec infrarouge.
Donc l'astuce, c'est que vous allez donc dans cette tasse chaude, vous attrapez la lune et ensuite vous vous grattez les couilles.
En plus, je vois très bien de quoi il parle parce que je crois que je l'ai faite il y a pas, genre 2 minutes avant le début de l'émission.
Oui, mais voilà, mais c'est ok. Donc effectivement, nous retiendrons ce conseil très important, grattez-vous les couilles une fois que vous avez sécurisé la lune. Bref, Drosgar, une pensée concernant le motion control, parce que toi, je sais pas si t'as joué essentiellement en mode télé ou en mode portable.
Alors, en mode à moitié, genre je suis dans mon lit, je suis assis, j'ai l'écran sur les couilles en fait, et après j'ai les manettes dans les mains, c'est
mais
pareil.
Mais est-ce que tu grattes tes couilles et que du coup ça fait bouger l'écran?
Bah non, parce que du coup il y a l'écran en dessous, donc c'est pas très pratique. Mais après en plus je verrai rien au jeu, et puis après... Non mais c'est trop compliqué après comme ça avec les couilles, dès que ça rentre en compte. Et du coup, par contre j'ai pas joué une seule fois sur ma télé encore. Parce que bah, depuis que j'ai emménagé dans mon appart, j'ai encore ma petite télé de chez ma mère. Et jouer sur un 23 pouces alors que j'ai 4 mètres de distance entre les deux murs, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant j'ai fait que ce mode là, et j'ai fait très peu de modes portable, c'est-à-dire avec les Joy-Con sur la console. Parce que je trouve pas ça très pratique, parce qu'en fait je me suis vraiment habitué au mode, enfin à la fonction gyroscopique. Et comme ça a été dit un peu plus tôt, c'est vrai que certains mouvements sont un peu compliqués à faire, je trouve. Et j'ai appris que récemment que certains mouvements que je pensais faire uniquement au gyroscope peuvent être faits directement avec des combinaisons. Par exemple, en tournant le stick et en envoyant Capi, on peut faire le
mouvement. C'est pas ce que j'ai dit il y a 3 minutes.
Tu crois que je t'écoute parler? Non, mais je crois que t'avais juste dit justement que tu l'avais fait parce qu'il fallait mettre à l'horizontale.
Ouais, mais après, ouais, bon, bref.
Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Non, bref, ça, de toute façon, j'ai jamais essayé
encore. Tu réécouteras.
On l'a dit hier.
Bah, mais, donc 58 minutes après le début de l'émission, t'écouteras.
Ok, 21h58. Note à Drodgar, écoute à ce moment-là.
Note à Mortal.
Ah oui,
la phrase au Drodgar.
Bonjour, moi du futur.
Putain, j'en ai marre.
C'est même insupportable.
Donc au final, en fait j'ai trouvé ça vraiment utile, mais pas forcément des plus pratiques. Et surtout, on nous rabâche sans cesse certaines astuces dans le jeu, comme le son en longueur, etc. Par contre, on nous parle très peu des contrôles gyroscopiques. Et il y a certaines choses comme lancer le chapeau plus bas, etc., qui sont pas vraiment expliquées dans le jeu, je trouve, ou pas assez. Et
si,
c'est dommage.
C'est expliqué, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est expliqué en gyro, et c'est jamais
c'est
expliqué.
Expliqué voilà, c'est
donc
jamais
par
expliqué
exemple,
sur
pour le lancer,
très peu.
Oui, voilà,
le son en longueur, je suis d'accord, on te l'explique au moins 10 fois. Alors que
la charge vidéo,
le chapeau vers le bas, on te le dit.
Alors chapeau vers le bas, donc on te le dit en gyro. Et par contre, ce qu'on te dit jamais, c'est que si tu veux le faire avec les boutons, donc c'est moi ce que j'appelle attaque rodéo, parce que je suis un vieux con, attaque rodéo et ensuite lancer de capi. Et ça lance le capi vers le bas. Et c'est la seule façon de le faire, ce qui est pas pratique. Et pareil pour lancer vers le haut. En fait, il y a toujours une astuce pour remplacer un mouvement par des boutons, mais jamais on te le dit. Donc la suite, c'est d'aller sur le forum du dojo.
Autopromo, wink wink. Bref.
On a un site.
C'est pas bien ce que tu fais.
T'as pas à kick.
Bref, pour terminer, j'aimerais que on fasse un petit tour de, on va dire, votre monde ou vos mondes préférés avant de conclure. Je propose de commencer dans l'autre sens du coup. Zergy, je sais pas si tu avais. Si tu avais un monde préféré, parce que je ne sais pas si tu avais Super Mario Odyssey, et je ne sais pas si, Je sais pas si. Enfin voilà, je sais pas si.
C'est ton micro marche.
Si, son micro marche, je pense.
Je l'achète vendredi avec Doom.
Voilà, donc. Je ne te poserai pas la question, je vais remonter dans l'autre sens. Donc, du coup, Drosgar, est-ce que tu as un monde préféré
Galaxis
que...
Tout sauf la cuisine.
Mais Galaxis, on s'en fout, Galaxis, il n'y a pas de Switch.
Ah, oh, oui, c'est vrai.
Puis, il n'a pas de respect.
Mon niveau préféré, c'est le niveau du casino avec Knuckles.
Oh, t'as
que... Ça mérite un ban.
Ça mérite un ban.
Sur la Xenoboxis.
Moi,
j'ai détesté. Enfin, j'ai détesté. En fait, je sais pas, j'ai un problème viscéral avec le monde de la cuisine. Ça me va pas du tout. L'ambiance, les musiques, tout. Y a rien qui me bat dans ce monde-là.
Ouais,
je me sens mal à l'aise.
T'aimes pas la musique d'accordéon dans le village?
Mais je sais pas, tout me fait chier en fait. Genre, c'est trop nié. On se croirait dans une BD pour enfants, mais pour enfants autistes.
Attends, tu viens de dire que Mario c'est trop nié?
Non, mais merci.
T'es en train de dire qu'il est pas autiste?
Ah, ouais, je voudrais dire un truc d'ailleurs là-dessus. Ceux qui ont fini le jeu, vous trouvez pas qu'il est super adulte à la fin, le passage bouchez-vous les oreilles ceux qui l'ont pas fait, le passage avec le dragon, la musique boss de fin,
c'est ultra dark, c'est très bizarre en fait ce truc là, c'est très
le
très
dragon.
Sérieux,
c'est la partie Dark Souls du jeu.
C'est la Dark Soulsisation de Super Mario Odyssey.
De Mario, quoi.
Oui, il y a un moment... Alors moi, j'étais assez déçu par ce monde-là, parce que je voulais absolument avoir Mario dans une tenue de vampire et avoir un monde horrifique. Ça aurait été vachement bien, je pense, en reprenant des thèmes un peu de Luigi's Mansion, des choses comme ça. Et en fait, non, c'est juste un tout petit monde intermédiaire, tout bête. Il y a juste le dragon qui est effectivement très décalé par rapport au reste. Mais j'étais très triste qu'il n'y ait pas un vrai château hanté avec, je sais pas, une petite référence à Castlevania, Luigi's Mansion, tout ça, ça aurait été vachement sympa. Je pense que là, ils ont raté un truc. Alors je me dis, peut-être qu'il y aurait un DLC où il y aurait ce monde-là un peu plus
complexe, ou un Odyssey 2.
Ou un Super Mario Odyssey 2. Mais voilà, ça fait partie des petites déceptions, le monde des ruines. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'aurais trouvé ça tellement énorme qu'il y ait des trucs en plus dedans. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Bref.
Oui, d'ailleurs, ça me paraît toujours bizarre qu'on n'ait pas eu de DLC annoncé pour Mario.
Ça va peut-être venir. Mais voilà. Bon, Drosgar, donc le monde de la cuisine, non.
Et en monde que j'aime bien, j'ai plus aimé l'image que j'ai maintenant du monde des gratte-ciel que l'image que j'avais lorsqu'on l'a essayé ensemble en juin. Parce que vraiment, à l'époque, j'avais un blocage. Maintenant, au final, il s'accorde assez bien avec le reste de l'univers.
Il a vu une panne.
On se rend compte que la différence, enfin les différents styles graphiques et tout, font que cette différence-là, par exemple, avec les humains, n'est moins choquante que ce qu'on pensait avant. Par contre, j'ai pas forcément de monde préféré. Il y en a pas un qui m'a marqué plus que les autres. Il y en a beaucoup que j'ai bien aimé. Le monde du lac, par exemple, j'ai bien aimé l'ambiance, c'était assez calme. Le monde de la forêt, etc. Mais il y en a pas un qui m'a plus tapé dans l'œil, par contre. Je trouve ça un peu triste.
D'accord. Syrah, est-ce que tu as eu un monde préféré ou un monde que tu as vraiment détesté, du coup?
Alors, détesté, non. Alors, effectivement, moi, le monde des fruits et légumes, je le trouve spécialement moche. Et je comprends pas le style graphique, d'ailleurs. Mais cependant, je l'ai bien aimé. Moi, je crois que j'ai à peu près tout aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé assez amusant le tout dernier en fait, à ambiance très grise, je ne veux pas spoiler, qui a un gameplay assez différent et je sais pas si tout le monde voit de quoi je parle.
On voit tous de quoi tu parles.
D'accord.
Et tous ceux qui ont fini le jeu parce qu'ils se respectent, le voient de quoi tu parles.
Et globalement, je trouve que la fin était quand même assez, enfin tout. Toute la fin, la difficulté monte un petit peu et le gros reproche qu'on fait beaucoup à ce jeu, c'est qu'il est quand même très facile en termes de technique, pas de recherche. Et effectivement, la fin, je l'ai trouvé un peu plus hardcore et c'est assez bienvenu. Et ce monde en particulier et tout ce qui suit après est un petit peu hard.
Mais le changement de gameplay sur le dernier monde effectivement rend les choses un tout petit peu plus compliquées et c'est vrai que ça, je vais pas dire que ça fait du bien parce qu'il faut pas exagérer, mais ça fait plaisir de voir que les mecs ont quand même réussi à mettre un tout petit peu de piment sur la fin. Donc je confirme effectivement que pas mal.
Je suis d'accord.
Antique, c'est un monde préféré, un monde détesté du coup. Sachant que t'as pas fini le jeu, donc il y a peut-être des choses que tu
n'as pas fini le jeu, donc ce que je vais dire s'inscrit au jour d'aujourd'hui qui est le. Qui est déjà pas un truc à dire. Le 8 novembre.
Le 8 novembre à 22h05.
2017. Alors moi, il y a deux mondes que j'ai bien aimés. J'étais un petit peu déçu par les premiers mondes et je suis arrivé au monde de la forêt que j'ai immédiatement aimé. Les robots me faisaient marrer. Il y avait le petit secret de la forêt perdue que j'ai découvert en mode par hasard. Et je trouve ça super cool de tomber dessus.
Ah non, alors ça, j'ai détesté la forêt perdue.
Ouais, je comprends. Eh ben... Mais moi, ça m'a fait. Moi, je suis tombé et en fait, je fais. Ah bah, il y a un truc. Du coup, ouais, c'est marrant.
Avec la surprise, la surprise est cool, mais une fois que t'es dedans, c'est la merde.
Mais surtout, toute la partie à la surface. Et tout, ouais. La partie à la surface, j'ai beaucoup aimé la petite musique de la musique de ce monde-là. La partie à la surface, c'était vraiment cool avec ce mélange nature entre nature et modernité, certains diront.
Tradition et modernité, le Japon, ce pays extraordinaire.
Entre tradité et modernition. C'était vraiment un niveau qui était globalement assez cool avec le boss de la soucoupe volante que j'ai vraiment bien aimé et les oignons qui peuvent monter que je trouvais vraiment cool. Et l'autre, j'en ai déjà parlé, c'est New Donk City où quand je suis arrivé la première fois, je suis pas parti avant d'avoir eu 50 lunes et que je trouve vraiment cool parce que t'as tout cette notion de verticalité où tu peux grimper facilement en hauteur, que ce soit par tes propres moyens, en sautant comme un bond ou en utilisant les diverses transformations pour te faire escalader plus vite. Il y avait beaucoup de choses rigolotes dans ce niveau, que ce soit dans les portes où t'avais pas mal de petits passages très sympathiques, dont notamment un en scooter qui était vraiment vraiment bien, enfin vraiment bien pensé sur le moment et qui était une bonne surprise. Pas mal de petits gimmicks où tu peux t'asseoir sur les bancs, donc conduire le scooter, et toute la phase du festival qui je trouve était un excellent moment de jeu, rythmé par la fameuse musique Jump Up Superstar, enfin je sais plus comment elle s'appelle.
I'll be your one up girl,
qui était vraiment un super chouette moment dans le jeu et qui pour le coup était une bonne récompense de la très très longue quête, enfin l'espace qui m'a paru moi assez longue de ce niveau.
D'accord.
Alors, je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, moi, le jeu au début m'a pas transcendé. J'y jouais, mais bof.
Bah moi, franchement, le monde du désert, j'étais super déçu. Enfin, je me suis dit, c'est juste un grand désert vide avec trois ruines qui traînent, et je me fais un peu chier, quoi.
Et en fait, c'est avec New Donk City où en fait j'ai eu un déclic. Et c'est en fait à partir de New Donk City où vraiment j'ai, pareil que toi, j'ai quasiment récupéré toutes les lunes. Et après, je suis revenu en arrière et j'ai refait toutes les lunes que j'avais ratées parce que j'ai commencé à kiffer le jeu en fait. C'est ce niveau-là qui m'a fait un déclic, ouais.
D'accord. C'est intéressant de voir que New Donk City était le niveau.
Oui, et toi, Mortal, alors ?
Ton niveau préféré est le niveau que tu n'aimes pas.
Mais dis donc, Mortal !
Mais dis donc, ça tombe bien.
Et dis-moi jamais.
Tu connais sur Mario Odyssey ?
Mais vous connaissez Mario Odyssey ? Ce gag commence à devenir lourd. Moi, j'ai bien aimé
que vos enfants adorent.
J'ai bien aimé le monde français du déjeuner complètement sous acide.
Moi, je l'aime bien
colorés.
Pour l'instant aussi. Je l'ai pas fini, donc je l'ai pas mis dedans. J'aime
beaucoup l'ambiance du niveau. Par contre, je trouve que récupérer les lunes, c'est lourd parce qu'il y a de la lave partout et c'est juste un peu gavant. Utiliser les canons et tout. Je trouve que la circulation dans le niveau est pas super fluide et du coup, ça m'a un peu gavé. Le monde du désert lors du premier run, ça m'avait pas, j'avais pas, enfin c'était pas la folie quoi. Et finalement sur le second run, je trouve qu'il est plus intéressant.
Il y a les Jaxis qui sont super drôles, je trouve.
Voilà. Il y a quelques trucs très rigolos à faire avec, notamment quelques lunes à découvrir avec, qui sont quand même assez marrants parce que tu y penses pas tout de suite. Puis quand tu te rends compte de certains détails, tu dis ah tiens ça va pas, il y a ça là. Enfin bref, j'ai bien aimé le désert. Et j'ai bien aimé le monde de Bowser. Je vais pas spoiler sur son déroulement ou son ambiance et tout ça, mais je trouve que c'est très bizarre dans sa construction en fait, parce que c'est vraiment des petits îlots complètement séparés, ce qui est très curieux.
Et dans sa direction artistique aussi, c'est pas du tout Mario aussi.
Mais je trouve que ça passe plutôt bien.
Vous me rendez curieux là pour le coup.
Mais vraiment, c'est un des niveaux qui m'a le plus surpris. Moi, je me suis dit je veux pas spoiler les gens, c'est pas gentil, mais effectivement c'est très surprenant, mais ça passe assez bien. Voilà. Bref.
Alors, si je peux me permettre.
Oui, alors permets-toi parce qu'on conclut l'émission. Hein.
Je me permets, écoutez. D'après ce que j'ai vu, donc des 2-3 let's play que j'ai vu, le monde de la. Je crois que c'est de la forêt. A l'air très sympa. Donc, enfin, j'avais vu ce que vous avez dit, machin. Et sinon, en vrai, le, si, enfin, si, je pense que si je joue au jeu, ce serait plus le monde. Alors, je sais pas c'est lequel. C'est, ça doit être le monde de la bouffe, mais parce que je trouve le l'aspect cartoon très sympa en fait. Le cet aspect un peu, enfin, qui est composé quasiment que d'aplats de couleurs en fait.
Mais c'est le monde de la bouffe. Ouais,
ouais c'est ça. Hein. D'accord. Bah celui-là, je trouve l'aspect graphique très 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 cool.
Vous vous rendez compte de la qualité de cette émission, on demande l'avis de gens qui vont même jamais jouer à ce jeu.
Alors mais... toi en tant que regardeur de Let's Player, quelle était ta partie préférée du jeu?
Non mais
j'ai bien aimé quand PewDiePie il a gueulé dans tous les sens et il a fait une crise
voilà,
d'épilepsie à
force
de faire d'espace.
Voilà, bravo la censure, ça c'est bien la France, voilà.
Putain ça y est.
Bon, incroyable.
Bref. On va arrêter cette émission là. Donc Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey pardon. C'est très
Super
bien.
Mario Galaxy.
Super Mario Galaxy.
Bonjour.
Aussi. C'est très très bien, mangez-en. On se retrouve la semaine prochaine où le sujet sera je sais pas trop quoi parce que j'aimerais discuter de planning mais juste après l'émission. Bref, en attendant, jouez à Mario Odyssey, faites-vous
c'est
plaisir, défoncez Bowser.
Et la citation du jour.
Et je n'ai pas de citation du jour donc si tu as une blague.
Ah, j'ai pas de blague, je peux faire une citation du jour.
Vas-y, une citation du jour.
Wouhou, Mario Time.
D'accord.
Putain,
c'est pas mal ça.
C'est très bien, c'est très bien. Voilà, ciao tout le monde, à la semaine prochaine, bisous.
Bye.
Bisous.
Bisous.
Zou.